Nous aurons donc la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16. Et nous allons lire ce matin les versets 8 à 16. Apocalypse, chapitre 16. Nous commençons donc avec la lecture au verset 8, en parlant donc de la vision des anges. Jean écrit ceci, « Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Dans l'an 852 avant Jésus-Christ, les Moabites se sont révoltés contre le roi de Juda, contre Josaphat, et ils ont formé une coalition avec les Ammonites et les Édomites. Le roi Josaphat ignorait cette révolte, et il ne l'a su que lorsque les armées de cette coalition avaient déjà contourné la mer Morte et qu'ils s'étaient installés pas très loin de Jérusalem, dans un lieu appelé En-Gedi. On lit cela en 2 Chroniques, chapitre 20. Et le roi Josaphat était bouleversé en apprenant cette nouvelle. Il était rempli de frayeur. Il savait que c'était une menace terrible contre son royaume, contre la stabilité de la nation. Et il savait aussi qu'il n'avait pas les ressources pour combattre un ennemi aussi nombreux, aussi puissant. Et en 2 Chroniques 20, verset 3, nous lisons « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Et le roi va appeler tout le peuple, tous les habitants de Juda, à se retrouver pour chercher la face de l'Éternel, pour prier le Seigneur. Et en 2 Chroniques 20, verset 13, nous lisons « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Voilà, tout le peuple, ce peuple de l'ancienne alliance qui, face à cette catastrophe qui semble être la catastrophe ultime, la fin de leur existence, ce peuple se tient ensemble devant la présence de Dieu. Et voici en partie ce que prie le roi, 2 Chroniques 20, verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Et l'Éternel a répondu à cette prière. Il va envoyer un prophète du nom de Jacaziel. Et le message de Jacaziel en 2 Chroniques 20, verset 15, est ceci, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. » Et le jour suivant, le roi Josaphat est sorti de Jérusalem avec tout le peuple et les Lévites étaient marchaient devant. Et il chantait le psaume 118, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et quand ils sont arrivés sur le lieu où étaient campées les armées de la coalition. Nous lisons en 2 Chroniques 20, verset 24. C'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Et le peuple d'Israël a mis 3 jours pour ramener à Jérusalem toutes les richesses qu'ils ont réussi à piller de cette coalition. Mais voilà, cette délivrance, premier mot sur la feuille, cette délivrance que Dieu a accomplie au temps de Josaphat n'est pas la seule. Nous avons déjà vu, par exemple, en l'an 701 avant Jésus-Christ, avec le roi Ézéchias qui devait faire face à l'armée de Sanchérib qui assiégeait Jérusalem. Ésaïe dit au roi d'aller au temple, de chercher la face de l'Éternel. C'est ce que le roi a fait. Et l'ange de l'Éternel a détruit toute l'armée assyrienne d'un nombre de 185 000 soldats. Et on peut revenir en arrière, on peut regarder tout au long de l'histoire, on peut revenir au livre des Juges, avec Jabin, le roi de Canaan, et son général Sisera. Et on lit ceci en Juges 4, verset 3. Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et l'histoire nous dit que la parole de Dieu nous le rappelle, que Dieu a appelé Déborah pour qu'elle elle-même elle aille appeler Barak pour qu'il défende le peuple. Et au travers de lui, Dieu va accomplir une délivrance, la délivrance de son peuple. Mais tous ces récits de la délivrance de Dieu, que Dieu accomplit pour délivrer son peuple, se répètent tout au long de la parole, et pas seulement dans l'Ancien Testament. Et toute la parole, y compris l'Apocalypse, souligne que ce genre de scénario, une opposition terrible, une ville assiégée, aucun espoir de délivrance pouvant venir de la part d'un homme, mais Dieu qui intervient pour sauver son peuple, ce genre de scénario est le modèle pour décrire la fin de l'histoire de notre monde. Notre histoire va se terminer avec l'Église qui sera délivrée d'une telle manière. Et le cantique de Déborah que nous lisons en Juges 5, verset 19, décrit la victoire de Barak, ou que Dieu a accompli au travers de Barak, que cette victoire a eu lieu près des eaux de Megiddo. Et le verset 20 poursuit en disant « Des cieux ont combattu, et de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. » Il y a eu une intervention divine près des eaux de Megiddo. Et ce passage que nous venons de lire en Apocalypse 16 fait référence à cette période dans l'histoire du peuple d'Israël, de la victoire que Dieu a accomplie à travers Barak et à travers Déborah. Cette victoire à Megiddo où le ciel est intervenu. Et cela décrit, c'est le modèle de la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ va accomplir lorsqu'il revient pour délivrer son Église. Et au verset 16, nous avons lu que les forces qui sont déterminées à détruire l'Église se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, qui littéralement veut dire le mont Megiddo. On va y revenir tout à l'heure. Mais dans notre étude de l'Apocalypse, et en particulier l'étude des 7 sceaux, des 7 trompettes et maintenant des 7 coupes, nous avons dit que, dans un sens général, ces visions, décrivent toute la période de l'Église, de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au retour dans la gloire. Dieu juge en retenant le mal, en préservant son Église, ce sont les sceaux. Il juge partiellement, pour appeler à la repentance et pour avertir du jugement final, c'était les trompettes, et maintenant il frappe pour détruire le mal, sont les coupes. Et cela se passe tout au long de l'histoire. Mais quand on arrive au 6e de chaque série, 6e sceau, 6e trompette, 6e coupe, on est très proche de la fin. On est peu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le septième de chaque, septième sceau, septième trompette, septième coupe, annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin de l'histoire. Mais premier point, donc, la quatrième coupe. Nous avons vu les trois premières la semaine dernière, et nous continuons donc avec la quatrième. Premier point, la quatrième coupe, la colère de Dieu, qui est versée sur le monde incrédule. Verset 8, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et pour la clé pour comprendre ce jugement, c'est de réaliser que c'est l'exact opposé, deuxième mot sur la feuille, l'exact opposé de ce que Dieu promet à son peuple. Le psaume 121 commence avec ces paroles, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis plus loin, continue le psalmiste au verset 5, dit ceci, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » En Apocalypse 7, verset 16, nous lisons que les rachetés n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Mais ici, en Apocalypse 16, nous voyons exactement l'opposé. Il n'y a plus la protection, il n'y a plus la bénédiction que Dieu réserve à son peuple. Il y a maintenant la colère, il y a le jugement. Dieu donne au soleil de brûler les hommes incrédules. Le commentateur le résume en disant « La quatrième coupe symbolise un jugement de l'Alliance. Les hommes sont jugés. » Parce qu'ils ont défié la loi de Dieu et se sont donnés à l'idolâtrie. Et nous le rappelons du serment sur la montagne. Le Seigneur Jésus parle de la grâce commune. Il dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, 45. Oui, la création, toute la création révèle la bonté de Dieu. La pluie tombe aussi sur les justes et sur les injustes. Mais l'Apocalypse nous dit qu'il y a un temps où la patience de Dieu, troisième mot sur la feuille, la patience de Dieu va atteindre sa limite. Et ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui ont vécu dans l'incrédulité, vont connaître l'horreur de sa colère juste et sainte. Et cela ce n'est pas simplement quelque chose qui est réservé pour la fin de l'histoire. C'est quelque chose que l'on voit tout au long de l'histoire. Dieu agit de cette manière. On le voit dans les vies personnelles. On le voit dans la société. Tout ce qui devrait être des bénédictions pour les hommes. On peut penser au mariage, à l'éducation, la vie en communauté. Tout cela devient une malédiction à cause du jugement de Dieu. Sur le péché. C'est ce que ce jugement, cette quatrième coupe, souligne. Et on peut comprendre, on peut voir cela dans la civilisation occidentale. Notre société, qui se veut laïque, a rejeté de Dieu d'une manière volontaire, d'une manière délibérée. L'homme ne veut pas de Dieu, il ne veut pas de son influence, il veut l'enlever de ce monde. Mais l'Apocalypse nous a montré que en réalité, il n'y a pas de place pour la laïcité. Quand on chasse Dieu, on ne se retrouve pas sans Dieu. Mais on se retrouve avec le faux Dieu, la fausse Trinité. Et l'Apocalypse décrit ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Sans Dieu, nous avons dans ce monde la bête d'un gouvernement envahissant, omniprésent, qui veut s'occuper de tout. On a le faux prophète d'un humanisme laïque, la deuxième bête. On a les séductions de la prostituée Babylone. Et c'est ce qu'on a quand on rejette Dieu. Et malgré cela, Dieu ne peut pas être détrôné, quatrième mot sur la feuille. Il ne peut pas être exclu de ce monde parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur, il est le Seigneur. Alors quand la société rejette Dieu, quand la société se moque de lui, quand la société veut le pousser hors de sa vie, Notre passage souligne que notre société vient alors sous la malédiction de Dieu. Et au lieu d'entendre les merveilleuses promesses, les merveilleuses paroles de bénédiction, comme celle de la bénédiction d'Aaron en Nombre 6, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au lieu d'entendre cela, c'est la quatrième coupe nous dit que l'homme reçoit exactement l'opposé. Dieu maudit, Dieu détourne sa face parce qu'il est en colère. Dieu ne part pas, il ne s'en va pas, mais sa bénédiction s'éloigne et la vie dans le péché devient une malédiction. Le passage de Romains 1 souligne exactement le même point. Paul dit au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. » Et remarquez le temps du verbe. Le verbe est au présent. Paul ne dit pas que la colère de Dieu se révélera un jour. Non, elle se révèle aujourd'hui. Et Paul va poursuivre, si vous relisez ce chapitre 1 de Romains, avec cette expression qui revient plusieurs reprises. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu juge en livrant les incrédules, en livrant les rebelles à l'impureté, à leur sens réprouvé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La quatrième coupe dépeint ce soleil qui brûle les hommes par une grande chaleur. C'est la malédiction de ce jugement qui rend cette vie dure, pénible, misérable. Et ce qui rend la situation encore pire, c'est la réponse des hommes à ce jugement. Verset 9. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ce fléau. Et ils ne se repentirent pas, cinquième mot sur la feuille. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et c'est exactement ce que l'on voit autour de nous, dans les journaux, à la télé, sur Internet. Il n'est pas difficile de trouver un comédien ou une personnalité qui va insulter Dieu. Très souvent, ces personnes vont parler des choses que la Bible décrit comme le résultat de notre péché. L'échec du couple, de la famille, la violence, la maladie, l'effondrement de la société, le non-respect des lois. Et ces personnes vont insulter Dieu pour ces choses qui sont en fait les conséquences du péché. Ils vont poser des questions comme ben, « Où est ce Dieu plein d'amour dont parlent les chrétiens ?» Que dites-vous de ces enfants qui meurent de faim à différents endroits dans ce monde? Que dites-vous de tous ces migrants qui meurent en cherchant à venir en Europe? Ils disent que Dieu aura des comptes à rendre. Mais ces gens oublient. Ils ne réalisent pas que c'est en réalité l'homme qui a des comptes à rendre à Dieu. Ces choses sont un jugement de Dieu sur un peuple idolâtre, un peuple qui s'est détourné de lui, un peuple qui ne veut pas de Dieu. Dieu détourne sa bénédiction et la remplace par sa colère. La tragédie dans tout cela, c'est que parfois les chrétiens sont tentés de répondre à ces insultes en minimisant la colère, la réalité de la colère de Dieu. Et même des responsables d'église vont dire « Mais non, Dieu ne juge pas comme les hommes, comme nous jugeons. » Et comme les faux prophètes, ils vont minimiser la réalité de la colère de Dieu et vont même jusqu'à nier la souveraineté de Dieu sur toute chose. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a rappelé en Matthieu 10, verset 29, en parlant des deux passereaux, il dit « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Beaucoup de personnes vont dire « Mais non, Dieu n'a rien à voir avec cette tempête, avec cette catastrophe, avec cette attaque terroriste. » Non, Dieu n'est pas vraiment en colère contre ce que la Bible décrit comme des abominations. Ces personnes vont même jusqu'à dire, par exemple, que quelqu'un peut vivre son homosexualité, croire en Jésus et aller au ciel. Mais la parole de Dieu est très claire. Oui, nous sommes tous pécheurs. Et nous ne voulons pas nous mettre à part en disant, voilà, ces gens méritent la colère de Dieu. Mais ce que nous devons dire, c'est que ceux qui s'engagent à vivre dans le péché, volontairement, ceux qui rejettent intentionnellement Dieu, qui persécutent d'une certaine manière la parole de Dieu et de l'Évangile, ces gens-là ne peuvent pas s'attendre à autre chose qu'un jugement de la part de Dieu, parce que Dieu est un être qui est moral, qui est parfait, qui est pur et qui est souverain sur toute chose. Aujourd'hui, on vit dans une société qui fait passer des lois qui s'opposent à l'ordre de Dieu concernant la famille, concernant le mariage et bien d'autres choses. Et notre société pense que voilà, le soleil va continuer à briller. Et Dieu dit que non. Ces choses que Dieu a prévues pour le bien deviendront une source de malédiction. Et l'homme va connaître des souffrances à cause de cela. Et la dernière chose que l'homme laïque peut tolérer, c'est l'idée que Dieu puisse juger le péché. Sixième mot sur la feuille. Le commentateur résume cela en disant « Les personnes qui refusent de se repentir sont déterminées à ne pas reconnaître le lien entre une vie qui déshonore Dieu et les jugements et les souffrances qui en découlent. » Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu puisse juger le péché. Voilà le message de la quatrième coupe. Ce qui nous amène au deuxième point, la cinquième coupe. Versets 10 et 11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ce jugement est basé sur la neuvième plaie d'Égypte quand Dieu a fait tomber les ténèbres sur le royaume de Pharaon. Vous le savez peut-être. Peut-être que vous apprenez ça en histoire, à l'école. Mais Pharaon était supposé être la manifestation du dieu soleil, une des divinités, une des idoles principales en Égypte. Et Dieu voulait humilier Pharaon, septième mot sur la feuille. Il voulait humilier Pharaon qui prétendait être ce dieu soleil. Si on peut le dire, d'une manière simple, il était en train de dire à Pharaon, « Mais vas-y, brille, brille, toi qui prétends être le Dieu soleil. » Et Dieu va couvrir le royaume de Pharaon de ténèbres pour montrer que c'est lui, l'Éternel, qui est le seul vrai Dieu, qui est le seul souverain dans ce monde. Et le peuple égyptien était dans la crainte. Nous lisons en Exode 10, verset 23, que personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Personne ne bougea. Personne ne se leva de sa place. Mais tout au long de l'histoire, Dieu va agir de cette manière pour humilier, pour apporter la honte sur toutes ces idéologies qui sont derrière les forces laïques. L'homme va créer ses utopies. Il va imaginer des choses qui favorisent le péché, qui renient Dieu. Et Dieu va amener tout cela à se briser. Il va faire tomber les ténèbres sur eux. Son intention est d'humilier, d'amener la honte, d'amener en disgrâce toutes ces idéologies qui renient Dieu. Et au temps de l'apôtre Jean, au premier siècle, les lecteurs ont sans doute pensé à Néron, parce que c'est ce qui s'est passé lorsque Néron s'est suicidé. Il y a eu un chaos à Rome. Il y a eu une succession d'empereurs dont le règne était très court. Et tous ceux qui avaient mis leur confiance dans l'Empire romain, dans la Pax Romana, faisaient comme ceux qui sont décrits au verset 10, ils se mordaient la langue de douleur, ils étaient remplis d'inquiétude, d'angoisse. Mais ce n'est pas quelque chose qui se limite au premier siècle. Un commentateur le résume en disant, les gouvernants qui oppriment le peuple de Dieu et encouragent l'idolâtrie doivent toujours s'attendre à subir une rébellion interne, une rébellion qui vient de leur entourage et une destitution de leur puissance, qu'elle soit religieuse, politique ou économique. L'idée ici est donc d'amener la honte sur ces idéologies laïques à travers lesquelles la bête, le Satan et ses puissances œuvrent contre l'Évangile avec force. La plaie sur l'Égypte a montré la souveraineté de Dieu. Huitième mot sur la feuille. Et Dieu montre sa souveraineté sur ce monde. Aujourd'hui, on entend parler de, on entend cette expression, les actes de Dieu. Apparemment, c'est toujours utilisé en droit maritime pour désigner un cas de force majeure. Mais vous savez aussi bien que moi que si un de nos hommes politiques tenait une conférence de presse et disait que les catastrophes naturelles ou la chute de la bourse ou les attaques terroristes étaient des actes de Dieu, tout le monde crierait au scandale. La Bible dit que de tels actes sont des actes de jugement, mais le monde ne peut pas tolérer que quelqu'un puisse être au contrôle de toutes choses, notamment que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Mais rappelez-vous cet incident où des personnes sont venues vers le Seigneur Jésus-Christ, ont raconté comment Pilate a tué des Galiléens. Et Jésus, lui, va rajouter l'accident de la tour qui a tué 18 personnes. Où est Dieu dans tout cela? Et la réponse du Seigneur Jésus est remarquable. Il ne dit pas que Dieu n'était pas souverain sur ces événements. Il ne dit pas que Dieu jugeait ou ne jugeait pas ces personnes. Jésus dit à ces personnes qui sont venues vers lui, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Luc 13, verset 3. Jésus sait que son Père est souverain sur toutes choses, mais il sait aussi que ses jugements sont des appels à la repentance. Neuvième mot sur la feuille. Mais Jean souligne que ces personnes, ces gens ne se sont pas repentis. Verset 10, ils se mordaient la langue de douleur. Et l'idée ici est qu'ils essayent de reprendre le contrôle de soi. Ils sont remplis d'anxiété. Tout ce en quoi ils avaient mis leur confiance est maintenant détruit. Que ce soit économique, que ce soit idéologique, que ce soit politique. Mais ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit la parole de Dieu. Et l'anxiété causée par le péché sera plus intense quand Dieu fera tomber les ténèbres sur le royaume de Satan. Voilà la cinquième coupe. Cela nous amène à la sixième. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela nous rapproche, on nous décrit des choses qui se rapprochent de la fin de l'histoire. La sixième coupe qui parle d'un dernier combat, verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Si vous vous rappelez, l'Euphrate était la limite originale du pays que Dieu avait donné à Abraham. C'était la frontière au-delà de laquelle se trouvaient les ennemis qui menaçaient le peuple de Dieu. C'est intéressant qu'au premier siècle, c'était aussi la limite de l'Empire romain. De l'autre côté de l'Euphrate, il y avait l'Empire parthe, auquel on a déjà fait allusion. Et de plus, la ville de Babylone était située sur l'Euphrate, et un des bras de l'Euphrate entrait dans la ville en passant sur la muraille. sous la muraille. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu sépare les eaux, il intervient dans l'histoire, dixième mot sur la feuille. Il intervient dans l'histoire pour faire avancer la cause de son peuple. On le voit à la mer Rouge, quand il sépare les eaux. On le voit au Jourdain. Ici, Dieu assèche l'Euphrate pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alors, on a fait suffisamment de chemin ensemble dans le livre de l'Apocalypse pour que vous imaginiez bien qu'il y a une foule d'interprétations quant à l'identité de ces rois. Mais la meilleure façon d'interpréter ce passage, c'est de le voir comme symbolisant la guerre entre les puissances de ce monde. Satan veut avoir son royaume, mais il ne peut pas le maintenir ensemble parce que Dieu l'a placé sous les ténèbres. Il y a l'anxiété. Maintenant, il y a aussi la déloyauté. Dieu ne retient plus les royaumes, mais une puissance de ce monde va combattre l'autre. Si on pense aux Parthes, les Parthes n'étaient pas là pour attaquer les chrétiens. Ils étaient bien là pour attaquer Rome. Quand on pense à Babylone, il est intéressant de noter que lorsque Cyrus est venu conquérir et faire tomber la ville de Babylone, il l'a fait en construisant un barrage pour détourner l'Euphrate. Et le lit du fleuve est devenu une avenue pour l'armée des Mèdes et des Perses. Ils sont entrés dans la ville par le lit du fleuve de l'Euphrate et ils ont conquis de cette manière. Mais dans les deux scénarios, que ce soit les Parthes qui attaquent Rome ou que ce soit Cyrus qui attaque Babylone, les deux ont eu pour effet la délivrance du peuple de Dieu. Onzième mot sur la feuille. Les deux ont eu pour effet la délivrance du peuple de Dieu. Cyrus est celui qui a mis fin à l'exil du peuple d'Israël en Babylone. C'est lui qui a signé le décret pour la reconstruction de Jérusalem, pour le retour du peuple dans le pays. Et de la même manière, quand les Parthes attaquaient Rome, ils libéraient les chrétiens de l'oppression du culte de l'empereur. Mais nous devons nous rappeler que le livre de l'Apocalypse est un livre d'images. On n'a pas ici une description détaillée comme une description de la part d'un journaliste. Dans un journal des événements futurs. Non, ce sont des thèmes principaux de ce qui va arriver, comment l'histoire va fonctionner. Et cela devient clair au verset 13. On a la réponse de Satan à ce challenge qui est lancé contre son règne. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. On a ici la copie impie de la Trinité. Le dragon, Satan, la bête, le règne tyrannique de l'Antichrist tout au long de l'histoire qui va se concentrer à la fin de l'histoire. Et le faux prophète, l'autre bête venue de la terre qui symbolise le faux enseignement dans l'Église. Satan règne en coulisses, il utilise la tyrannie, il utilise le faux enseignement. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il est capable de lancer une attaque spirituelle. Ces démons sont appelés des esprits impurs, semblables à des grenouilles. Il ne s'agit pas d'une invasion littérale de grenouilles. Non, c'est symbolique. Et cela nous renvoie, encore une fois, aux plaies en Égypte. Les Égyptiens avaient une déesse nommée Hécate, une déesse à tête de grenouille. Et lors de la deuxième plaie, en Égypte, le pays a été envahi de grenouilles. Les grenouilles étaient partout, dans les maisons, dans les lits, dans les fours, dans les pétrins, Exode 7 et 8. Ce ne sont pas des bêtes très attrayantes, elles sont visqueuses. Elles font un bruit qui, à la longue, assez rapidement, devient énervant. Et voilà l'image de l'assaut spirituel que Satan aura le droit de lancer sur les peuples. Les esprits vont corrompre, ils vont tromper, 12e morceau de la feuille. Ils vont tromper les peuples avec leur langage collant, leurs paroles mielleuses. Verset 14, ça ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Satan va agir pour rassembler les rois de toute la terre. Mais il fait exactement ce que Dieu a prévu depuis toujours. C'est la raison pour laquelle Dieu a asséché l'Euphrate. C'est la raison pour laquelle Dieu ne retient plus les nations qui voulaient s'unifier. Non, Satan va tromper les nations pour les rassembler, pour le combat ultime contre Dieu. Et sa tromperie spirituelle aura du succès. Aujourd'hui, des personnes travaillent sur ce sujet. Comment unifier l'humanité dans une nouvelle utopie, dans un nouvel âge qui glorifiera l'homme? Satan va réussir à tromper le monde, mais se rassemblera, sera pour le jour de leur destruction et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera le grand jour du Dieu Tout-Puissant, ce jour que les prophètes ont annoncé. Et ce sont les rois de toute la terre qui sont rassemblés. Cette expression, les rois de toute la terre, où est-ce qu'on l'a déjà entendue? Dans le livre des psaumes, psaume 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le psalmiste continue au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Le commentateur résume, « Les nations seront trompées en pensant qu'elles se rassemblent pour exterminer les croyants. Mais au lieu de cela, elles sont rassemblées par Dieu pour connaître leur propre jugement de la part de Jésus-Christ lors de son retour. » Le nom qui est donné à cette dernière bataille est bien connu, même par le monde. Armageddon. Et le monde l'utilise pour décrire une bataille cataclysmique qui amènera la fin du monde. Jean écrit au verset 16, « Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » La signification de ce mot n'est pas remise en question de façon sérieuse. Jean dit qu'il fait référence à un mot qui est en hébreu, qui est Har Megiddo, le mont Megiddo. Megiddo était une ville située au milieu d'une plaine au nord-ouest de Jérusalem. Mais Megiddo était le site d'un grand nombre de batailles, et pas seulement dans l'Ancien Testament. Napoléon, par exemple, en traversant cette région, a fait la remarque que toutes les armées du monde trouveraient là un champ de bataille idéal. L'armée britannique a remporté une bataille à Megiddo lors de la Première Guerre mondiale. C'était le champ de bataille en Israël, nous dit un commentateur. De grandes armées pouvaient se masser dans la plaine et suivre la vallée de Jisréel. Ceux qui venaient de Babylone traversaient l'Euphrate, allaient jusqu'à la côte et empruntaient la route de la mer, la Via Maris pour les Romains, qui les amenait dans la vallée de Jisréel jusqu'au Jourdain, en passant par Megiddo. C'était la route de l'invasion par le nord. Megiddo était un lieu stratégique. Un grand nombre de batailles donc a eu lieu là. Au nord de Megiddo, il y a le mont Tabor. C'est là que Déborah s'est tenue pour regarder Barak remporter la victoire près des eaux de Megiddo. Au sud-est, il y a le mont Gilboa, où est mort le roi Saül, aux mains des Philistins. À l'ouest de Megiddo, il y a le mont Carmel, là où Élie a amené les faux prophètes, et les faux prophètes de Baal, pour les vaincre et les détruire. Dans la plaine de Megiddo, Gédéon et son armée ont soufflé dans leurs trompettes, et Dieu a jeté l'armée de Midian dans la confusion. Et c'est là aussi que Israël a perdu son dernier roi qui craignait Dieu, Josias, mort dans la bataille contre le pharaon Nécho. Et donc, le commentateur cité tout à l'heure continue en disant « C'est donc tout à fait normal que Megiddo symbolise la localisation de la bataille de l'Éternel contre les forces de ténèbres et que la dernière bataille cataclysmique soit décrite comme se déroulant ici. » Alors il y a des experts qui pensent que cela veut dire qu'il y aura dans l'avenir une bataille au sens littéral entre les armées du monde et un État juif renouvelé qui va se dérouler à Megiddo. Mais le problème, c'est que le livre de l'Apocalypse ne fonctionne pas de cette manière-là. Nous l'avons suffisamment souligné. Le livre de l'Apocalypse utilise un langage qui est symbolique, 13e mot sur la feuille. Dans les temps anciens, la plaine de Megiddo était suffisamment grande pour accueillir les grandes armées. Mais ça ne serait pas possible aujourd'hui. Surtout si on prend toutes les armées des nations du monde. Et en plus, au chapitre 17, nous le verrons, que l'Apocalypse elle-même déclare que ces images sont symboliques. Apocalypse 17, verset 15, « Les eaux que tu as vues, l'Euphrate, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » C'est donc un symbole. C'est un symbole de ce qui se passe sur le plan mondial. Et même le nom Armageddon, Mont Megiddo, est symbolique. Parce qu'il n'y a pas de Mont Megiddo. Megiddo est une ville dans la plaine qui est construite sur un tertre, petite élévation, qui est de terre, qui est avec un sommet qui est plat, qui est isolé. Et ce tertre culmine à peu près 21 mètres au-dessus de la plaine. 21 mètres, on ne peut pas dire que c'est une montagne. Megiddo est entouré de montagnes, oui, mais le mont Megiddo, Armageddon, est un symbole. Les batailles en Israël, nous dit un commentateur, associées avec Megiddo, deviennent un symbole typologique de la dernière bataille contre Christ et les chrétiens, une bataille qui se déroulera sur toute la terre. Armageddon est donc un symbole, mais comme tous les symboles de l'Apocalypse, il symbolise quelque chose qui est vrai, qui est réel, et qui est encore un événement futur. Et tout le Nouveau Testament enseigne clairement qu'il y aura un conflit, 14e mot sur la feuille, qu'il y aura un conflit quand le monde ordonnera ses forces d'aller combattre contre l'Église, de chercher à exterminer le témoignage du Seigneur Jésus-Christ et du peuple de Dieu dans un dernier combat. Un combat dans lequel toutes les puissances de ce monde seront réunies dans ce même but et qu'un antichrist fera la guerre contre le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cela dans son discours sur le mont des Oliviers en parlant des derniers jours, Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Voilà les esprits impurs. Voilà qui les esprits impurs décrits comme des grenouilles qui sortent pour tromper, pour séduire, qui ont la capacité de faire de faux signes. Et le Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul, ont enseigné au sujet de cette grande tribulation qui doit venir sur l'Église avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et une des choses qui se passe pendant cette tribulation, c'est que beaucoup de personnes s'éloigneront et renieront leur profession de foi, une foi qui n'était que superficielle. Qu'est-ce qui se passerait en France si le fait de se réunir comme nous ce matin pour adorer Dieu devenait illégal? Est-ce que les grandes églises resteraient grandes? Quand il y aura la persécution, il y aura aussi une vague d'apostasie de la part de ceux qui n'ont jamais été réellement unis à Christ dans une foi réelle. Les faux sarments seront écartés. Paul a parlé de l'homme impie en 2 Thessaloniciens 2. Et il le décrit le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 9 et 10. Il y a donc un grand rassemblement des puissances spirituelles dans ce monde qui veulent exterminer l'Église, 15e mot sur la feuille, si cela était possible. Mais Apocalypse 11 nous avait déjà donné une version en parlant des deux témoins. L'un ressemblant à Moïse, l'autre à Élie, ils ont témoigné, mais l'ennemi a eu l'autorisation de les tuer. 11, versets 7 et 8, « La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » C'est une persécution mondiale à travers le monde, ce monde qui veut exterminer les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20 et son enseignement sur le millénium nous dit qu'à la fin de l'ère de l'Église, Satan sera autorisé à séduire les nations une dernière fois. C'est le même langage que nous avons ici au chapitre 16. Satan rassemblera les nations pour livrer une bataille contre l'Église. Le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean parlent tous de cette réalité. Il y aura un dernier rassemblement de toutes les puissances de ce monde pour essayer de détruire l'Église. Nous verrons en Apocalypse 19 qu'au moment où tout semble perdu, c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est alors qu'il apparaîtra dans la gloire pour sauver son peuple et il sera sur un cheval blanc en conquérant. Ce grand conflit entre Dieu et Satan, entre Christ et l'Antéchrist, ce conflit existe depuis toujours, mais il se manifestera dans une dernière bataille. Et c'est Dieu qui en sortira vainqueur. Christ prendra avec lui tous ceux qui se sont confiés en lui. Voilà ce qu'est Armageddon, un symbole. Mais le verset 14 dit aussi que c'est le grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est le grand jour pour lui, un grand jour pour sa gloire, un grand jour pour son Église. Les prophètes attendaient ce jour. Christ revient pour détruire Satan, 16e mot sur la feuille, pour détruire Satan et ses adversaires et ses alliés, pour délivrer son Église et pour établir son royaume éternel. Et cela nous amène au quatrième point. Trois leçons, trois applications. La première, nous devons, en tant que chrétiens, réaliser comment la délivrance fonctionne. Nous devons connaître le contexte pour connaître le fonctionnement de la délivrance. Et le contexte, nous l'avons ici. C'est comme une ville assiégée, sans espoir. Mais Christ vient et délivre de manière soudaine. Il intervient, comme il est intervenu tout au long de l'histoire, pour délivrer le peuple d'Israël, pour délivrer le roi Ézéchias, pour délivrer Josaphat et tous ces récits que nous avons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous enseigne pas qu'il faut attendre un âge d'or pour l'Église, comme certains le pensent. Un âge où l'Église aura un succès, où c'est l'Église qui rassemblerait les nations avant le retour de Christ pour qu'elle l'adore. Non. La Bible nous dit que les nations seront rassemblées pour chercher à détruire l'Église. Mais alors, Christ reviendra. Nous sommes comme ceux que nous avons cités tout à l'heure. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il faut faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Et voilà comment fonctionne la délivrance. En comprenant cela, notre attitude change quand la persécution arrive. La tentation naturelle, bien entendu, est de dire que la persécution est terrible. Oui, elle est terrible. Mais elle ne va pas nous détruire. Au contraire, elle va amener la délivrance, 17e mot sur la feuille. Elle amène la délivrance. Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. C'est vrai tout au long de l'histoire, quand la persécution est arrivée. Même si, ultimement, nous sommes mis à mort, c'est pour nous une délivrance. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes avec lui pour l'éternité. Mais sans aller jusque-là, la délivrance, Dieu intervient pour délivrer son peuple. C'est aussi vrai à la fin de l'histoire. Quand le Seigneur Jésus-Christ va arriver, il va délivrer son peuple. Ne soyons pas abattus. Faisons le travail qu'il nous a appelés à faire et levons nos têtes. Notre délivrance approche. La deuxième leçon est si importante que le Seigneur Jésus-Christ lui-même intervient au milieu de la vision de Jean. Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Jésus dit qu'il vient. Nous savons qu'il vient. Mais ses ennemis n'anticipent pas le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'idée derrière le voleur qui vient dans la nuit. Le monde ne s'attend pas à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais certains croyants se posent la question, est-ce que ce n'est pas un futur un peu trop lointain? Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper de ces choses si c'est très loin dans l'avenir? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous devons vivre avec une vigilance spirituelle, 18e mot sur la feuille. Et tout le poids de l'argument du Seigneur Jésus-Christ est mis sur la nature, le caractère inattendu de son retour, comme un voleur arrive dans la nuit. Il faut être vigilant. Veillez à ne pas être séduit par les mensonges de ce monde, à ne pas suivre les voies de ce monde, à ne pas suivre sa vision de la paix, de la prospérité, la vision du monde concernant le succès. Ne pas abandonner le vêtement de Christ pour se retrouver nu et dans la honte. Non, notre appel est de vivre comme les enfants de Dieu dans ce monde, de veiller et prier. Mais la troisième leçon est une conséquence, une suite de la deuxième. Et elle s'adresse, c'est un appel à venir à Christ. 19e mot sur la feuille. Le monde connaît et connaîtra le jugement. C'est vrai tout au long de l'histoire, mais c'est aussi vrai à la fin de l'histoire. Tout incroyant connaîtra le jugement de Dieu. Quels sont les habits qu'un incroyant porte? L'incroyant porte les habits de sa culpabilité, de la culpabilité de ses péchés. Dieu va le juger, Dieu va le punir. Mais il est un habit que Dieu accepte. L'habit de la justice de Christ. Et il donne cet habit à tous ceux qui viennent à lui par la foi. Pour revêtir de cet habit, il faut sortir de ce monde. Quitter ce monde qui s'est donné au péché, qui est idolâtre, qui est aveugle, qui insulte Dieu pour ses avertissements. Ce monde qui est destiné à la destruction. Quitter ce monde, c'est venir à Christ. C'est être uni à lui. Ce ne fut plus faire partie de ce monde, mais faire partie de son peuple, qui pour l'instant est encore dans ce monde, mais qui est destiné à la gloire. Venir à Christ, dans la repentance et la foi, et être uni à lui, et avec tout le peuple, attendre cette délivrance finale, où tout le peuple sera rassemblé dans la gloire pour le servir d'une manière parfaite. Voilà les coupes 4 et 5 et 6. Et nous verrons la suite la prochaine fois. Que Dieu donc nous aide à comprendre ces choses. Qu'il nous aide à lever les yeux vers lui. Et à, comme le roi Josaphat s'est écrié, ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.